scandalisée. Elle se leva, se mit doucement sur ses genoux. « Toi seul est bon. Il n'y a que toi que j'aime. » En le regardant, son cœur s'amollit. Une réaction nerveuse lui amena des larmes aux paupières et elle murmura « Veux-tu m'épouser ?» Il crut d'abord n'avoir pas compris. Cette richesse l'étourdissait. Elle répéta plus haut « Veux-tu m'épouser ?» Enfin il dit en souriant « Tu en doutes ?» Puis une pudeur le prit, et pour faire au défunt une sorte de réparation, il s'offrit à le veiller lui-même. Mais comme il avait honte de ce pieux sentiment, il ajouta d'un ton dégagé « Ce serait peut-être plus convenable. »« Oui, peut-être bien, » dit-elle, « à cause des domestiques. » On avait tiré le lit complètement hors de l'alcôve. La religieuse était aux pieds, et au chevet se tenait un prêtre, un autre, un grand homme maigre, l'air espagnol et fanatique. Sur la table de nuit couverte d'une serviette blanche, trois flambeaux brûlaient. Frédéric prit une chaise et regarda le mort. Son visage était jaune comme de la paille. Un peu d'écume sanguinolente marquait les coins de sa bouche. Il avait un foulard autour du crâne, un gilet de tricot et un crucifix d'argent sur la poitrine, entre ses bras croisés. Elle était finie, cette existence pleine d'agitation. Combien n'avait-il pas fait de courses dans les bureaux, alignés de chiffres, tripotés d'affaires, entendus de rapports, que de boniments, de sourires, de courbettes, car il avait acclamé Napoléon, les Cosaques, Louis XVIII, 1830, les ouvriers, tous les régimes, chérissant le pouvoir d'un tel amour qu'il aurait payé pour se vendre. Mais il laissait le domaine de la Fortelle, trois manufactures en Picardie, le bois de Crancé dans l'Yonne, une ferme près d'Orléans, des valeurs mobilières considérables. Frédéric fit ainsi la récapitulation de sa fortune, et elle allait pourtant lui appartenir. Il songeait d'abord à ce qu'on dirait, à un cadeau pour sa mère, à ses futurs attelages, à un vieux cocher de sa famille dont il voulait faire le concierge. La livrée ne serait plus la même, naturellement. Il prendrait le grand salon comme cabinet de travail. Rien n'empêchait, en abattant trois murs, d'avoir au second étage une galerie de tableaux. Il y avait moyen peut-être d'organiser en bas une salle de bain turque. Quant au bureau de M. d'Ambreuse, pièce déplaisante, à quoi pouvait-elle servir? Le prêtre qui venait à se moucher, ou la bonne sœur arrangeant le feu, interrompait brutalement ses imaginations. Mais la réalité les confirmait. Le cadavre était toujours là. Ses paupières s'étaient rouvertes, et les pupilles, bien que noyées dans des ténèbres visqueuses, avaient une expression énigmatique, intolérable. Frédéric croyait y voir comme un jugement porté sur lui, et il sentait presque un remords, car il n'avait jamais eu à se plaindre de cet homme qui, au contraire... « Allons donc, un vieux misérable !» Et il le considérait de plus près, pour se raffermir en lui criant mentalement « Eh bien quoi, est-ce que je t'ai tué ?» Cependant, le prêtre lisait son bréviaire. La religieuse, immobile, sommeillait. Les mèches des trois flambeaux s'allongeaient. On entendit pendant 2 heures le roulement sourd des charrettes défilant vers les halles. Les carreaux blanchirent, un fiacre passa, puis une compagnie d'ânesses qui trottinait sur le pavé, et des coups de marteau, des cris de vendeurs ambulants, des éclats de trompettes. Tout déjà se confondait dans la grande voix de Paris qui s'éveille. Frédéric se mit en course. Il se transporta premièrement à la mairie pour faire la déclaration, puis, quand le médecin des morts eut donné un certificat, il revint à la mairie dire quel cimetière la famille choisissait, et pour s'entendre avec le bureau des pompes funèbres. L'employé exhiba un dessin et un programme, l'un indiquant les diverses classes d'enterrement, l'autre le détail complet du décor. Voulait-on un char avec galerie ou un char avec panache, des tresses aux chevaux, des aigrettes au balai, des initiales ou un blason, des lampes funèbres, un homme pour porter les honneurs et combien de voitures? Frédéric fut large. Madame d'Ambreuse tenait à ne rien ménager. Puis il se rendit à l'église. Le vicaire des convois commença par blâmer l'exploitation des pompes funèbres. Ainsi, l'officier pour les pièces d'honneur était vraiment inutile. Beaucoup de cierges valaient mieux. On convint d'une messe basse, relevée de musique. Frédéric signa ce qui était convenu, avec obligation solidaire de payer tous les frais. Il alla ensuite à l'hôtel de ville pour l'achat du terrain. Une concession de 2 mètres en longueur sur 1 de largeur coûtait 500 francs. Était-ce une concession miséculaire ou perpétuelle? Oh, perpétuel, dit Frédéric. Il prenait la chose au sérieux, se donnait du mal. Dans la cour de l'hôtel, un marbrier l'attendait pour lui montrer des devis et plans de tombeaux grecs, égyptiens, mauresques. Mais l'architecte de la maison en avait déjà conféré avec madame. Et sur la table, dans le vestibule, il y avait toutes sortes de prospectus relatifs au nettoyage des matelas, à la désinfection des chambres, à divers procédés d'embaumement. Après son dîner, il retourna chez le tailleur pour le deuil des domestiques. Et il dut faire une dernière course, car il avait commandé des gants de castor, et c'était des gants de filocèle qui convenaient. Quand il arriva le lendemain, à 10 heures, le grand salon s'emplissait de monde, et presque tous, en s'abordant d'un air mélancolique, disaient « Moi qui l'ai encore vu il y a un mois, mon Dieu, c'est notre sort à tous. Oui, mais tâchons que ce soit le plus tard possible. » Alors on poussait un petit rire de satisfaction, et même on engageait des dialogues parfaitement étrangers à la circonstance. Enfin, le maître des cérémonies en habit noir à la française et culotte courte, avec manteau, pleureuse, brette au côté et tricorne sous le bras, articula, en saluant, les mots d'usage. « Messieurs, quand il vous fera plaisir, on partit. » C'était jour de marcher aux fleurs sur la place de la Madeleine. Il faisait un temps clair et doux, et la brise qui secouait un peu les baraques de toile gonflait par les bords l'immense drap noir accroché sur le portail. L'écusson de M. d'Ambreuse, occupant un carré de velours, s'y répétait 3 fois. Il était de sable au sinistre chair d'or, à poings fermés, ganté d'argent, avec la couronne de comte et cette devise « par toute voie ». Les porteurs montèrent jusqu'au haut de l'escalier le lourd cercueil et l'on entra. Les 6 chapelles, l'hémicycle et les chaises étaient tendus de noir. Le catafalque au bas du chœur formait, avec ses grands cierges, un seul foyer de lumière jaune. Aux 2 angles, sur des candélabres, des flammes d'esprit de vin brûlaient. Les plus considérables prirent place dans le sanctuaire, les autres dans la nef, et l'office commença. À part quelques-uns, l'ignorance religieuse de tous était si profonde que le maître des cérémonies, de temps à autre, leur faisait signe de se lever, de s'agenouiller, de se rasseoir. L'orgue et 2 contrebasses alternaient avec les voix. Dans les intervalles de silence, on entendait le marmottement du prêtre à l'autel, puis la musique et les chants reprenaient. Un jour mat tombait des 3 coupoles, mais la porte ouverte envoyait horizontalement comme un fleuve de clarté blanche qui frappait toutes les têtes nues, et dans l'air, à mi-hauteur du vaisseau, flottait une ombre, pénétrée par le reflet des ors décorant la nervure des pendentifs et le feuillage des chapiteaux. Frédéric, pour se distraire,